Mathieu.
L'équipe d'Imaginaire sur le 101.5
avec un invité de marque
jusqu'à 22h. Benoît Dupeloux.
Bonjour.
BDaste.
Alors voilà, justement.
BDiste.
Ah bah. BDaste,
c'est que les scénarios, non?
Je sais pas.
J'en sais rien. Moi, je dis auteur BD parce que j'écris mes histoires et je les dessine.
C'est parfait.
Et pour Traquenard et faire les bouches, je fais aussi la mise en couleur. Donc.
Donc on va parler de Traquenard et Faribault. Le deuxième tome est sorti tout récemment.
Oui, début mars.
Aux éditions Bambou. Bande dessinée, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'heroic fantasy?
Humoristique aussi,
hein? C'est de l'heroic fantasy animalière, disons, voilà, pour caractériser un peu le genre.
Ok. Et on retrouvera Benoît au Salon Imaginaire dans un mois, au Salon Kurnonski.
Qui sera présent uniquement le dimanche. Alors préparez vos dédicaces, racontez-vous que le dimanche.
Et en deuxième partie d'émission, on aura un deuxième illustrateur, mais au téléphone cette fois.
Alors je t'interromps tout de suite, on n'aura pas un deuxième illustrateur, on aura un illustrateur, puisque nous avons un BDiste.
Ronald de Bousseau, que les fans d'Imaginaire connaissent bien aussi.
Et on aura une annonce à faire en lien avec lui, mais il pourra nous en parler un peu plus pendant son interview.
Et on parlera notamment de Loisel, donc super-héroïne angevine, qui a été...
C'est la première super-héroïne.
Je dis angevine, en fait, ça se passe à Paris, mais elle a été écrite par une angevine il y a 100 ans, hein, je crois, c'est en 1909.
1906 pour moi.
Mais bon. Pour moi, c'est 1909. Ouais. Et donc, les éditions Banquise et Comète rééditent un roman mettant en scène cette super-héroïne. Et donc, ils le présenteront logiquement à l'Angers Geek Fest qui aura lieu dans 10 jours, là, les 2-3 avril au Parc Expo, parce que ça tombe dans la thématique aussi le geek au féminin. Mais avant toute chose,
on parle de l'Angers Geek Fest.
Oui, on a quelque chose à vous faire gagner, c'est vrai.
Exactement, nous avons 2 passes, 2 jours à vous faire gagner, auditeurs. Vous avez juste besoin de vous connecter sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, donc Facebook, Twitter et Instagram, nous envoyer un petit MP, message privé, en nous disant que vous souhaitez participer au jeu. Un tirage au sort sera effectué.
Super. Et on commence tout de suite avec la chronique de Karine.
Alors, me revoilà pour vous parler d'un roman, Ce qui grignotait le fond de l'univers de Patrice Véry, édition Voyelle. On le connaît bien, effectivement, à Imaginaire.
C'est le professeur Patrice qu'on entendait quelquefois dans cette émission, il ne vient plus beaucoup. Hein. Il est en retraite, je crois.
Maintenant qu'il écrit, on ne l'entend plus beaucoup. Ouais.
Donc son roman est publié en 2 parties, Les Artefacts, le tome 1 et le tome 2, Les Chasseurs. Les illustrations sont également réalisées par un membre de notre association, Mathieu Sedas. Donc Patrice Véry nous projette en 1213 de l'ère spatiale. Après un âge sombre, la population s'est reconstruite et plusieurs peuples vivent plus ou moins en harmonie. En effet, la situation politique reste tendue. L'apparition d'artefacts et la disparition de galaxies n'arrangent rien. Ainsi sont notamment découvert un livre, une sphère, mais plein d'autres choses également. Personne ne comprend pourquoi ils arrivent et des personnages vont être amenés à créer des alliances pour s'en sortir et peut-être sauver l'univers. Le dilemme reposera notamment sur 2 personnages, 2 jeunes femmes pleines de ressources, Ginny Ilang et Sherine Gemayel. Ce récit nous amène à réfléchir sur des concepts scientifiques très intéressants et bien menés par l'auteur. Il évoque notamment la question du voyage dans le temps et des boucles maîtrisées. On voyage au fil des pages dans le temps et l'espace avec les personnages. En parallèle, on suit l'évolution sur une vingtaine d'années, des personnages qui grandissent et deviennent des piliers de leur peuple. Les personnages sont très bien développés, et tout particulièrement Ginny Ilang, qui est une empathe et qui va devoir apprendre à vivre avec cette capacité-là. C'est un personnage impressionnant et profondément humain. D'autres personnages, secondaires certes, sont tout aussi intéressants et charismatiques. Valérie, Thiago, Nolwenn, Fedia, tous apportent leur perception et leur regard, et surtout leur humanité. Cette histoire nous pousse à réfléchir sur qui nous sommes dans ce monde, qu'est-ce que nous voulons transmettre. Patrice Véry a su, au-delà de ce roman de science-fiction space opéra, mettre en avant des personnages dont on peut facilement se sentir proche. Les liens entre les personnes sont très présents, amitié, amour, famille sont mis en avant et tissent également l'histoire. Donc, il est connu sous le nom de l'homme au chapeau et c'est un auteur angevin. Et il a écrit un autre roman, Le fou qui voulait la tête en bas, et diverses nouvelles. Passionné par la science et l'astrophysique, il nous livre un roman qui nous apprend des notions de science sans que ce soit plombant. Au contraire, l'équilibre entre savoir et histoire est réussi. Je vous invite donc à découvrir ce roman et voyager dans l'espace avec ceux qui grignotaient le fond de l'univers et ainsi découvrir la belle plume de Patrice Véry. Pour la suite, je vous propose la chanson Révolution du groupe Equilibrium.
Et je voulais ajouter qu'on retrouvera Patrice Véry sur le stand imaginaire à Langer Geekfest. Et il sera aussi au salon imaginaire. C'est parti! pas sûr que Patrice Véry aurait choisi ce genre de musique, Karine.
Ah bah si, pour se coucher le soir avant de s'endormir, c'est parfait.
Ça grignote la tête.
Bon, on écoutera un petit peu de folk avec Benoît tout à l'heure, mais un truc un peu plus traditionnel. Plus soft. Ouais, plus soft, toi. Plus roots.
Mais c'est soft.
Donc là, oui. J'ai le plaisir de vous présenter Benoît Dupeloux. Donc, et d'ailleurs, Benoît, en fait, c'est un autre Benoît qui m'a fait te connaître. Benoît Chassebeuf, hein, peut-être que tu connais bien.
Non, ça me dit rien du tout.
Il a avec un nom comme ça, il pourrait être dans une BD.
C'est un fan inconditionnel de tes styles de dessin et d'histoire, donc je le salue. Il sera d'ailleurs à la dédicace du Repère des Héros au mois d'avril pour l'album Traquenard et Farival.
C'est le 1er avril.
Ok.
Donc voilà. Donc moi j'ai emprunté la première BD animalière chez Bambou Édition, Traquenard et Farible, et sous le charme des aventures du duo de canailles qui donne leur nom à l'album, puis à la série en cours, j'ai craqué à nouveau pour le tome suivant, Stratus. Donc comme tu l'as rappelé si bien Benoît, qui est sorti donc début mars, pouvant du reste se lire indépendamment. Et donc on aura, comme l'a rappelé Pierre-Marie, donc le plaisir de t'avoir le 15 mai au Festival Imaginaire au Salon Kurnonski. Et d'ailleurs Pierre-Marie, on a une vidéo sur YouTube qui nous explique à peu près comment trouver les salons Kurnonski.
Bon, les Angevins savent aller au Salon Kurnonski quand même, rassurez-moi.
Des fois que...
On parle plus souvent des salons du Père Noël que des salons Kurnonski.
Oui.
C'est au dos de l'ancienne poste. Enfin si, c'est toujours la poste d'ailleurs.
Tout à fait.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais. 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 Alors je vais vous faire un résumé très succinct à mi-auditeur de l'album. On a des animaux intelligents donc, qui habitent le royaume d'Urican et qui grondent, car le roi, Lion, n'arrive plus à commander son oiseau météo Stratus de faire stopper la pluie. Elle tombe sans cesse et entre autres ruine les récoltes des paysans. Elle sape le moral des sujets du roi. Stratus semble avoir la tête ailleurs, mais... Je n'en dis pas plus sur ce qui le chagrine. Bon, je laisse le suspense. Alors juste que Traquenard et Farible, ils vont être chargés, mais contre une jolie somme d'écus d'or, de cueillir des graines euphorisantes. Alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Benoît. D'origole moravignole.
Si, c'est bon.
Voilà. Pour guérir Stratus de son mutisme. Et d'ailleurs, quel jeu de mots, s'il y en a un, dans l'origole moravignole? Ça recouvre. Est-ce qu'il y a un jeu de mots, quelque...
Alors effectivement, non, il n'y a pas de jeu de mots. Ah. Mais je voulais un nom qui soit long et qui fasse un peu, effectivement, un médicament un peu sérieux, quoi. Si c'était trop court, s'il y avait deux syllabes, ça suffisait pas. Donc je voulais un truc long. Généralement, quand je faisais un nom, c'est plutôt un nom court, parce que c'est plus facile à caser dans les bulles. Mmh. Mais là, je me suis dit non, je vais en mettre un long. C'est pas quelque chose de courant, quoi. Donc voilà. Mmh. Il fallait marquer la chose un peu exceptionnelle.
Mais ça rappelle le dialogue des médecins dans le premier album aussi, qui abusent des noms très longs et ça fatigue le roi à un moment donné.
Oui, oui, dans le premier album, j'avais fait un peu d'emprunt à Molière avec le médecin malgré lui. Oui, c'est...
Alors, et dans les deux Traquenard et Farible, les personnages de méchants veulent être calife à la place du calife. On a Perfidie. Puis dans le deuxième, Attaque et tue, qui vise à détrôner le roi. Et on a également dans le deuxième album Versatile, qui jalouse le mage royal. Ils sont prêts à tout, hein, et font peu de cas des sujets du royaume d'Urican. Et quelle illustration du pouvoir, justement, Benoît, as-tu souhaité mettre en scène pour les lecteurs dans ces albums?
On avait dit qu'il n'y avait pas de question piège.
Enfin, c'est pas une question piège. Hein.
Bah, le pouvoir classique, en fait, c'est... y a un roi... omnipotent, on peut dire, mais bon, c'est un bon roi, sympathique, on le voit dans le premier album. Il aime bien ses sujets, donc il a cet oiseau, effectivement, qui permet de faire la pluie et le beau temps dès qu'on lui demande. Lui, il en profite évidemment un petit peu. Mais il y a toujours, effectivement, des gens un peu jaloux qui aimeraient bien prendre le pouvoir, s'installer à place, comme tu disais, être le calife à la place du calife. Donc, ça, je crois que c'est à peu près partout. Hein, j'ai rien inventé. Je crois que la politique est là pour nous le montrer, c'est bientôt les élections. On voit qu'il y a pas mal de gens qui veulent détrôner le calife actuel.
Et ils usent, en plus, on voit dans les albums qu'ils sont vraiment, ils vont jusqu'au bout et ils usent de stratagèmes qui même mettent Traquenard et Farible un peu dans le jeu, mais un peu contre leur gré.
Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que les deux, Trekner et Fireball, en fait, c'est des copains de circonstance. Hein. Ils s'aiment pas tellement tant que ça. Notre Fireball, le renard, il est plutôt indépendant, il est tout seul dans son terrier. Quand il a la nourriture, tout va bien. Et bon, quand il y a quelque chose qui te chagrine un peu, là, il est obligé de se mettre un petit peu dans l'action. Et généralement, le loup, il arrive un peu derrière tout ça. Dans ces circonstances, ils rencontrent des gens qui sont encore plus perfides qu'eux, qui les embarquent dans leur perfidie. Mais c'est jamais tellement calculé à l'avance, en fait. C'est vraiment des hasards de circonstances.
Oui, on le voit dans les albums, des aventures leur arrivent, mais vraiment des hasards totaux qui les font se retrouver et puis ils sont embarqués dans les aventures. Ah, ça, ouais. J'ai bien aimé.
Dans le premier album, c'est encore plus marqué. Le renard, effectivement, il profite d'une bonne occasion. Il y a une attaque, il y a des brigands qui ont attaqué un voyageur et le cheval sur lequel était le voyageur s'éloigne un peu et dit, je vais peut-être en profiter, il y a des sacoches qui m'ont l'air assez intéressantes, profitons-en. Et en fait, là, il ne sait pas dans quoi il a mis le doigt. Là, il va se retrouver embarqué dans une aventure absolument pas prévue.
Alors là, on a parlé donc un peu des deux personnages. Je reviendrai un peu plus dans la deuxième partie de l'interview sur Traknar et Fireball, le loup et le renard. On a parlé de pouvoir, mais dis-moi, à un moment donné, il y a deux rats mauvais qui m'ont interpellé et qui s'évertuent à monter le petit peuple contre l'oiseau Météostratus pour le mettre à mort. Et justement, à quels autres travers bien humains, en plus du pouvoir, t'es-tu attaqué dans l'album Stratus?
Ah oui, c'est très politique. Les râleurs professionnels, en fait, les gens qui sont jamais contents et qui essayent toujours d'embarquer d'autres gens avec eux dans leur. Eux, ils râlent. Il faut absolument, il faut un effet de meute pour essayer de déclencher quelque chose. Et donc, ils essayent, quoi. Ils sont prêts à y parvenir, d'ailleurs, à la fin. Mais on sent que là, Fireball, il n'a pas tellement envie de mettre le doigt là-dedans. Il le dit lui-même, hein, il suffit de quelqu'un fort en gueule, et il le dit, c'est à un moment donné. Oui. Et puis, on se trouve embarqué dans des actions qu'on n'aurait pas voulu soi-même.
Parce que lui, il râle, mais il va pas jusqu'à vouloir, destituer le roi. Parce qu'on le voit sortir de son terrier, qui est un peu, en fait, noyé sous la pluie. Il y a tellement des pluies diluviennes. Il dit, ben, on est assez de payer des impôts. Et le roi, il commande pas à son oiseau. On voit même des paysans, au début, ça m'a fait sourire. Ils sont contents d'avoir de la pluie. Ouais. Puis après, il râle. Il y en a qui passent, il dit, il râle toujours, ces paysans.
Moi, je suis fils d'agriculteur, donc je sais de quoi je parle. Et effectivement, quand il fait trop chaud, on dit que ça manque de pluie. Quand il y a trop de pluie, on dit qu'il faudra un peu de soleil pour que ça pousse. Mais bon, ça, c'est tellement aléatoire, l'agriculture, qu'on n'est jamais totalement satisfait du temps qui existe. Ça, c'est vrai.
Ça fait beaucoup penser à Kaamelott, la série Kaamelott, avec les paysans qui râlent et qui, au bout d'un moment, ne savent plus pourquoi ils râlent, mais ils râlent quand même, parce que oui. C'est le principe.
C'est vrai que quand on me demande d'où viennent mes idées, ça peut très bien venir de Kaamelott, parce qu'effectivement, j'étais assez friand de Kaamelott à la télévision. Mais c'est vrai, on prend des idées un petit peu à droite à gauche. Mon univers, c'était effectivement fils d'agriculteur habitant la campagne pendant longtemps. J'ai vu un peu comment les mentalités fonctionnaient. C'est vrai que c'est en observant, donc je me suis amusé à des petits clins d'œil comme ça. Et je suis assez content que les gens les remarquent. Quoi. C'est fait pour ça. Quoi. C'est pour ça qu'en fait, il y a deux systèmes de lecture. En fait. Les adultes, je pense, ils trouvent leur compte et les enfants aussi.
Et là, on va faire un petit clin d'œil à Triane, d'ailleurs, qui se retrouve dans ton album par tes choix musicaux.
Oui. Moi, j'aime bien la musique bretonne. J'ai quelques origines bretonnes et c'est vrai que j'aime bien et la musique et les paysages bretons, les landes. C'est très évocateur, effectivement, de contes, de légendes, etc. Et donc, quand j'écris un scénario, c'est pas rare que je mette en fond musical ce style de musique.
D'accord.
Alors, on s'écoute quel morceau ?
C'est Dérobé de Guingamp.
De Guingamp, un instrumental.
Non, imaginaire sur le 101.5.
C'est Guy Gray.
On retrouve Benoît Dupeloux donc sur le 101.5 pour parler de Traquenard et Faribault, hein, Sébastien.
Oui, tout à fait. Donc là, c'est un air vraiment guilleret. Et j'aime beaucoup en plus parce que ça rappelle un petit peu le pouvoir un peu de la graine d'Aurigol Moravignol, euphorisante, et qui fait un peu pousser la chansonnette à Traquenard et Faribault, le loup, le renard et la belette. Et j'ai trouvé ça très drôle.
Le Triane, oui. Oui, surtout qu'il y a un rappel à la fin qui est assez. Oui, c'est marrant de mettre des références en fait dans un album.
Mais alors le coup du conte avec le renard et le loup, on peut voir d'où vient l'imaginaire, comme tu l'as rappelé, c'est l'imaginaire collectif. Mais la graine euphorisante qui fait chanter, où est-ce que tu allais tirer ça comme idée?
Je sais pas, il y a plein de, il y a des légumes qui rendent joyeux, il y a des, je sais pas, le pouvoir de la carotte est très connu.
Et d'ailleurs, pour continuer là sur nos amis Traquenard et Faribault, justement, moi, ce qui m'a vraiment plu, bon, j'ai lu le premier, mais dans le deuxième, ils apparaissent quand même bien plus tôt, Traquenard et Faribault, au niveau de l'avancée de l'histoire. Et on a l'impression de retrouver des vieux amis, comme si en fait, on ne les avait jamais quittés. Et même pour quelqu'un qui n'a pas lu le premier, bah, ils leur sont très familiers d'entrer dans le deuxième album. Et comment t'es-tu attaché, Benoît, à les rendre encore plus attachants dans le deuxième, à mon sens, que dans le premier?
Ah, alors j'ai pas fait exprès. Non, mais moi-même je me suis attaché au personnage parce qu'en réalité, au tout début, quand j'ai le premier album, je voulais raconter à chaque fois une histoire différente, un peu comme les contes de Grimm ou les contes de Perrault, quoi. Qu'il n'y ait pas de lien entre les histoires, on ne trouve pas les mêmes personnages, etc. Et puis en fait, à la sortie du premier, pas mal de succès, les critiques ont été bonnes. Et puis ensuite, en discutant avec les lecteurs, ils me disaient, ah non, vous comptez abandonner Traquenard et Faribault? Je dis, bah, oui, c'était un peu difficile. Oh non, non, vous ne pouvez pas faire ça, ils sont trop sympas. Et alors du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'ils sont sympas, puis que les gens ont l'air de bien les aimer. Et du coup, en y réfléchissant, une autre histoire est arrivée, et voilà.
Mais alors, du coup, sur cet album-là, la construction n'est pas du tout la même, puisque, si je suis bien, le premier tome, c'est une succession d'histoires qui ont une fin, alors que le deuxième tome, pas du tout. Ça en appelle, ça ouvre un troisième.
Je ne sais pas si ça en appelle, parce qu'il y a quand même une fin, l'histoire est bouclée, mais si vous considérez que ça appelle une autre histoire, ça veut dire que vous avez envie qu'il y en ait une autre, donc ça me fait plutôt plaisir.
Et là, en fait, encore un des points, on va dire, différents du deuxième, c'est que pendant une quinzaine de pages, donc tu as dû le voir, Pierre-Marie, nous quittons le royaume du Rican pour voguer en compagnie de Traquenard et Faribault, oui, vers les rivages radieux des Péricolos.
D'ailleurs, moi, je tiens à pousser un coup de gueule sur ce coup-là. Alors, je l'ai lu rapidement. Je ne veux pas dire que je suis un spécialiste de cette BD, mais l'espèce qui est mise en avant dans ce passage-là, je ne suis pas d'accord sur le choix de l'espèce. Qu'on soit bien d'accord, c'est triste de décrier cet espace-là comme ça.
Ah bon? Pourquoi les moutons
Moutons, bélier, tout ça, c'est un petit peu comme...
Non, mais ça, c'est le côté le Petit Prince. Dessine-moi un mouton, faut que ça reste comme ça. Non, mais non, c'était bien de choisir des animaux qui sont assez proches. Les gens qui ne connaissent pas tellement la campagne, je pense, peuvent les confondre un peu, les chèvres et les moutons. Autant le mouton, ça appelle le côté gentil. Faut pas trop dévoiler l'histoire. Hein. Mais bon, le bouc, c'est quand même le symbole du diable, le pervers.
La tanière, oui.
Voilà, donc voilà, j'en dis pas plus, mais bon.
Et par rapport à Hurricane, pour toi, qu'est-ce que symbolise Epericolo dans l'album?
Il fallait qu'ils puissent sortir comme du royaume, qu'à un moment donné, c'est bien de les avoir tout le temps sous la pluie, mais bon, il fallait un paysage un peu plus radieux, un peu plus sympathique. Là, ils arrivent, le ciel est bleu, il fait beau, on se retrouve dans des ruines qui ressemblent un petit peu à des ruines cambodgiennes, avec des lianes, des choses comme ça. Donc, finalement, on leur dit que c'est un lieu maudit, et puis finalement, non, c'est presque le paradis, donc voilà.
Ouais, surtout qu'ils mangent bien à un moment donné, hein, parce que c'est des bons vivants quand même, Trafinard et Paribol. Hein.
Oui, ah oui, oui, bah oui, oui, on sent que la nourriture est importante. Hein, pour, c'est ce qui les mène en fin de compte. Hein. À partir du moment où ils ont le ventre plein et une chope de bière devant eux, ils sont contents. Je pense que dans ces cas-là, on ne peut pas les emmener vers des aventures un peu compliquées. Mais voilà, quand ils ouais. Quand et le principal leur manque, à ce moment-là, ils se mettent en action.
Et d'ailleurs, ce qui se rappelait le terrier de Faribol, mais on n'a pas, enfin, j'ai pas l'impression que Traquenard, il a un logis bien à lui dans les deux albums.
Où j'ai ah oui, c'est vrai ça. Qu'on le voit jamais.
Il n'y a pas vrai. D'habitat, en fait.
Oui, oui. Si, si, il en a un, on le verra plus tard.
Ce sera dans le tome 3.
Tu viens de dévoiler l'intrigue du tome 3, bravo.
Alors avant de conclure, j'ai une question qui... peut-être étonnante, mais Romain, tu avais une petite question à poser sur l'âge des lecteurs.
Ah oui, oui, à partir de quel âge? Parce qu'on a dit que...
Bah, moi, ma réponse bêtement classique, hein, 7 à 77 ans.
D'accord, ok.
Non, j'aime bien quand je fais une bande dessinée que ça soit vraiment lisible par tout le monde, à moins de chercher à faire un scénario vraiment adulte. Mais je trouve toujours dommage que dans une bande dessinée qui est susceptible d'être lue par tout le monde, pour se faire plaisir, les auteurs glissent des scènes qui vont éventuellement rebuter les parents. Donc, voilà. Ça sert à rien. Et, ouais.
Par contre, donc, c'est sorti chez Bambou, mais dans la collection Grand Angle. Donc on a un format plus grande BD adulte.
En fait, non, c'est pas dans la collection Grand Angle, mais c'est un format Grand Angle.
C'est le format Grand Angle.
Parce qu'en fait, chez Bambou, il y a le format classique des comme Astérix, et donc un plus petit format, où c'est vraiment de l'humour gag en une page. Ensuite, il y a la collection Grand Angle. Et même maintenant, il y a une autre collection qui est la collection Draco, qui est vraiment l'Heroic Fantasy, dans laquelle j'aurais pu être, en fait, mais ça commençait tout juste à ce moment-là, la collection Draco. Okay. Donc, ils ont plusieurs collections pour, dans lesquelles les lecteurs arrivent à se retrouver, quoi.
Et il y a donc Triple Galop, 16 tomes, qui est vraiment très apprécié aussi chez Bambou Édition. Et ma dernière question, c'est qu'en fait, on voit des montures donc, de chevaux donc, dans le Traquenard et Faribol, mais pas de personnages chevaux parlants. Pourquoi ?
Je sais pas, en fait, pour l'instant, ça s'y prête pas tellement. Je pense qu'il y aura certainement un âne un jour, parce que bon, j'aurais besoin de mettre un personnage un peu idiot, enfin, quoi qu'un âne, c'est pas si bête, mais enfin bon. Et non, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que oui, je pense que, oui, sans y avoir vraiment réfléchi, mais du coup, ça me pose une question. C'est vrai que, comme de temps en temps, il y a des personnages qui sont à cheval sur des vrais chevaux, si je mettais des chevaux en personnage, ça ferait peut-être un peu bizarre.
Ben voilà, ben je te remercie Benoît donc, pour nous avoir donné encore très très envie de lire Traquenard et Faribol, et on aura vraiment le plaisir de t'avoir le dimanche 15 mai donc, pour dédicacer ce fabuleux album Stratus.
Et pour les très très impatients, donc il y a le 1er avril au repère des héros. Je crois que c'est en fin d'après-midi vers 17h.
Oh, je fais la réclame, mais donc Traquenard et Faribol tome 1 et Traquenard et Faribol Stratus tome 2, Bambou édition 14,90€ dans n'importe quelle bonne librairie.
Et même dans les mauvaises.
À Angers, il n'y a pas de mauvaise librairie.
Non, c'est vrai.
Merci, à bientôt Benoît. Et on continue en musique avec William Scheller, le choix de Sébastien.
Mrs. One, un peu pour faire écho à notre anthologie 2021, Orient Extrême.
Come in. This is Sylvie.
Allô, 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 allô. Attends, hop.
Allô.
Je pense qu'on a perdu Ronaldo.
Ah non, je suis là.
Ah ben voilà, superbe.
Ah, voilà. Une voix qui sort d'outre-tombe, ça fait plaisir.
Et moi j'entends du piano là, c'est quoi ce truc? Ah, c'est la fin de la chanson.
Ah, ok.
C'est William Scheller qui nous fait des espèces de fausses fins.
Grand moment.
Alors donc, on est à l'antenne avec Ronald Bousseau, l'illustrateur.
Je tiens à dire mon mécontentement.
Ah, ça commence. Qu'est-ce que t'es mécontent ce soir?
Ce soir, je suis très mécontent. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu à la radio et j'attendais Ronald avec impatience et il est pas là. Bon, alors, je me contente de sa voix, mais.
Ah, oui, tu auras ma douce voix, Pierre-Marie.
Ah, c'est vrai.
On n'avait pas trop le déranger parce que là, il vient de souffler ses bougies.
Oui. Aujourd'hui, effectivement.
Du coup, tu as plein de choses à nous raconter, Ronald, notamment grâce à Banquise et Comète ou à cause de Banquise et Comète, puisque tu as sorti une couverture récemment.
Oui, Banquise et Comète, les éditeurs de l'aventure, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. Oui, j'ai réalisé pour eux la couverture d'un roman là, qui va paraître au début avril, qui s'appelle Véga la magicienne. Voilà, une aventure de Loisel. C'est un projet, c'est Jean-Luc, le monsieur de Banquise et Comète, qui est venu vers moi pour me proposer ce chouette projet. C'était vraiment bien. En fait, Véga, je ne connaissais pas du tout, mais à la base, c'est potentiellement la première super-héroïne au monde, en fait, et qui serait donc française et en plus angevine, parce qu'en gros, son autrice à l'époque s'appelait René Gouraud d'Ablancourt et cette dame était angevine, en fait.
Elle habitait au château du Plessis-Massé à l'époque.
Oui, exactement.
Je pense que son mari était très riche parce que c'est peut-être quoi que elle, en fait, elle a dû cartonner quand même, mais elle écrivait sous un nom masculin.
Oui, oui, elle écrivait sous le pseudonyme de René Donjou, donc on retrouve quand même pas mal de publications à ce nom-là à l'époque. Et effectivement, la date par exemple de publication de Véga, donc je confirme ce que tu disais tout à l'heure, Romain, c'était bien 1909, hein, c'est les informations que j'ai également.
Okay. Et c'était sorti en feuilleton à l'époque, je ne sais pas si on publiait vraiment des gros romans d'un coup.
J'ai pas tous les détails effectivement, mais effectivement c'était publié, la première publication de Véga la magicienne, c'était dans le petit journal. Alors je sais pas c'était quoi le rythme de publication, si c'était toutes les semaines ou tous les mois, mais c'était sous forme de court feuilleton. Voilà. Okay. Un peu comme les Trois Mousquetaires, par exemple, ce genre de choses-là. Voilà.
Alors, à l'Angers Geek Fest, où nous aurons le plaisir de te côtoyer, il va y avoir une table ronde avec Tony Muriot et Boris Beuzelin qui vont parler des super-héroïnes, de l'origine des super-héros et super-héroïnes, puisque, comme tu le disais si bien, non, les super-héros et super-héroïnes sont français à la base et ont été récupérés dans les années 20 par les Américains qui ont eu accès à cette littérature-là pendant la guerre des tranchées, quand les États-Unis sont venus en France et ont découvert ce type de feuilleton. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je connaissais quelques-uns des super-héros de la belle époque, mais celle-là, je ne la connaissais pas du tout. Alors, Ronald, est-ce que tu peux nous parler un peu de ses capacités?
Alors, elle a un côté très steampunk, c'est assez étonnant. On est vraiment pile poil dans ce qu'on pourrait appeler même un peu de l'archéo-SF, en fait, finalement. Elle a des ailes, donc elle a une espèce de système avec des ailes, un petit moteur qui lui permet de voler en fait un peu comme un oiseau. Elle a des lunettes qui lui permettent de voir la nuit, un peu comme lunettes infrarouges. C'est vraiment les précurseurs de ce type de choses-là. Elle a des capacités aussi mentales incroyables parce qu'elle connaît pas la peur. Mais absolument pas. Donc voilà, c'est ce qui lui confère en fait une certaine audace par rapport à tout ce qui peut se passer, qui lui permet de se sortir de la plupart des situations.
J'ai vu qu'elle prenait une espèce de potion comme Astérix un peu qui lui conférait des pouvoirs surhumains quoi, aussi.
Mais c'est ça, c'est un mélange en fait de technique, ouais, de science-fiction pure et dure avec vraiment de la mécanique comme on peut voir chez Jules Verne par exemple, et puis de côté un peu plus mystique comme avec cette fameuse potion ou même des éléments du récit pampon. Elle va à la recherche des Atlantes, il y a une elle est en relation avec une société secrète qui s'appelle la Stella Negra, l'étoile noire, voilà. C'est assez intéressant. Il y a un côté assez désuet, puis un mélange effectivement entre la science et le mystique dans ce moment.
Et est-ce qu'elle a un costume donc particulier alors, puisque que tu as dessiné, c'est aussi ça un peu l'apanage du super-héros?
Bah, elle a un costume qui est assez sobre en fait, assez noir et moulant. Voilà.
Catwoman, merci.
Ouais. Catwoman, voilà, c'est ou la veuve noire un peu.
Et elle a une, donc une identité secrète aussi.
Bah ça, je vous laisse la découvrir. Voilà. Okay. Donc, elle se fait appeler effectivement Vega de Ortega.
Alors moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que bah, toi, tu es illustrateur. Jean-Luc Houdu t'a approché pour ce projet-là, que tu as accepté avec empressement, si je comprends bien. Mais est-ce qu'il existait déjà des illustrations d'elle ou tu es parti de tes lectures et tu as imaginé une créature, enfin un personnage?
Non, bah, je suis parti dans un premier temps de ce que m'avait décrit Jean-Luc. J'ai pas lu l'intégralité du roman. Clairement, j'ai lu quand même quelques passages. Je me suis inspiré aussi de ce que m'avait dit Jean-Luc sur le personnage, et j'ai également regardé que comment on fait. C'est ce soir maintenant en fait, on Google le nom et on tombe sur quelques sources pictographiques de l'héroïne, mais il y en a finalement assez peu. C'est étonnant parce que on est quand même face à historiquement en date la peut-être la plus ancienne des super héroïnes qui est française, et elle a quasiment pas été reprise ni popularisée quoi. Il y a peut-être 2-3 images qu'on retrouve sur Google, mais rien plus quoi.
Et du coup, la nouvelle figure de cette héroïne-là, historique, c'est toi. C'est grâce à toi.
Oui, bah pour l'instant. Je suis sûr que ça sera repris par la suite.
Est-ce qu'il y a d'autres projets en lien avec elle? Est-ce qu'il va y avoir un tome 2 de... Parce que là, c'est une réédition. Ce n'est pas, c'est pas des nouvelles écritures de ses aventures. Ah ben. Est-ce qu'il va y avoir un tome 2 en réédition? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles aventures écrites d'actualité?
Pas à ma connaissance. Ça faudra voir auprès de Jean-Luc ce qui aurait été fait. Bah, je sais que déjà que là, Jean-Luc, il a fait un gros travail de remise en forme et de retravail du texte, en fait, qui avait quelques incohérences sur la mise en forme, principalement pour rendre le texte plus logique. Après, pour la suite, pour moi, il n'y aura pas de suite avec Yala Magicienne. Pas dans l'instant.
D'accord. Et alors toi, quels sont tes projets?
Alors, et aussi Ronald, toi qui as fait l'affiche, enfin le visuel de Banquise et Comète. Souvent, il y a un nouveau visuel qui sort tous les ans.
Alors non, le visuel actuel, c'est Tony Emerio.
Oui, je dis la bêtise.
Ben oui. C'est Tony Emerio pour l'instant pour Banquise et Comète. Là, c'est ma première collaboration avec Banquise et Comète. C'est la couverture de Vega la Magicienne.
Ok.
Ok. Et du coup, toi, tes projets, c'est lesquels?
Mes projets dans l'immédiat, dans le monde d'illustration, là, j'ai avec vous donc une participation avec l'affiche d'un prochain festival sur le jeu de rôle.
Voilà, une journée jeu de rôle qu'on fera le samedi 2 juillet sur le thème des pirates.
Exactement.
Donc t'es encore en train de bosser dessus?
Oui. Donc voilà, c'est quasiment fini. Il faut que je vous envoie des trucs. Vous allez me dire si ça vous plaît ou pas. Et puis, du coup, Jean-Luc m'a sollicité pour d'autres couvertures pour la suite sur des projets qui sont pour moi. Alors, je vais taire le nom. Je vais garder le secret quand même jusqu'au bout, mais qui sont pour moi en tout cas tout aussi enthousiasmants que Vega la Magicienne.
Ok. Donc vous pouvez retrouver Ronald Bousseau d'abord à l'Angers Geek Festival dans 2 week-ends, puisqu'il sera le samedi sur le stand Banquise et Comète qui sont présents, et le dimanche le stand Imaginaire.
Et en plus, j'ai vu le plan du festival, ils seront juste en face de nous, enfin sur le côté.
Ah, on sera pas loin, c'est clair. Et oui, je serai avec vous donc le dimanche. Ah oui, si, en projet, j'avais complètement oublié, faut que j'en parle, la couverture en fait du second tome de l'univers du Premium par Caris Demos.
Que vous trouverez à Imaginaire, donc le 14 et le 15 mai. Il sera présent le dimanche, voilà. Si je me souviens bien. Et
donc son second tome devrait apparaître, il devrait être présent, il devrait être finalisé pour Imaginaire.
Ça fait quoi? Ça fait 2 ans après le premier tome?
Oui, à peu près, en sachant que le premier tome, c'était déjà une. Dont j'ai fait la couverture, c'était déjà une réédition. Il avait déjà fait une première version quelques années avant. J'ai pas l'année exacte, mais. Voilà, il avait voulu réactualiser la présentation de son livre.
Ok. Bon, on espère que Loisel donc sera mieux accueilli en 2022, parce qu'à l'époque, en 1909, ça avait quand même pas trop plu. qu'il y ait une super héroïne.
Une femme.
Voilà, exactement. Il y a beaucoup, apparemment, de critiques de l'époque avaient dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de femme qui vient se mêler d'affaires d'hommes alors qu'elle devrait rester à la maison à faire la cuisine et à s'occuper des enfants.
C'est complètement tragique parce qu'en fait, c'est un personnage qui est vraiment très très moderne, quoi. C'est rare de voir, surtout pour cette époque-là, c'est assez avant-gardiste de voir un personnage aussi indépendant et aussi fort.
Ok.
Je me souviens plus, c'est toi qui avais choisi la musique, Ronald ?
Non, c'est moi.
Et ben, j'espère que la musique va te plaire. Parce que...
Je vous fais pleinement confiance.
On va s'écouter Flavien, qui sera en concert à l'Angers Geek Fest et qui est un jeune musicien à Angevin, complètement fasciné par Tolkien, vu qu'il chante en elfique.
Ah oui. Et donc son titre, c'est Indil Malta. Alors j'espère que je prononce bien, mais je suis pas sûr.
Ah bah tu parles l'elfique ou pas ?
Bah, troisième langue, au collège.
Ce qui veut dire
Ça, par contre, je ne sais plus.
Bon, merci, Ronald. Merci.
Et puis, à très bientôt, Ronald.
Longue vie à l'Oiselle et à bientôt à l'Angers Geek Fest. On vous rappelle qu'on a quand même deux passes de jour à faire gagner, là. Et donc, il faut mettre un petit message sympa, imaginaire, sur nos réseaux sociaux. Et encore bon anniversaire.
Merci, c'est un plaisir. À bientôt.
À bientôt. Senna t'indormi, endu enten carinere.
personne ne parle l'elfique ici.
Non, il y a une traduction.
Non,
je sais pas, vous regarderez.
Alors, il y a plein de livres pour apprendre l'elfique, si jamais tu veux. Tu les trouves dans n'importe quelle bonne librairie, dans un rayon soit ésotérique, soit religion, et je pense que tu pourras traduire à plus tard.
Sinon, tu peux aller regarder sur la page, les pages de Flavien, là. C'est le premier morceau qui sort comme ça, et puis, ou sinon, tu iras lui demander à l'issue de son concert à Longé Geekfest.
Je pense pas que ça sera possible, je pense qu'il ne répondra qu'en elfique, si tu lui parles en elfique.
Ouais, on pourrait faire une interview en elfique. Hein.
Ça peut être très drôle.
Avec un traducteur. Alors, l'AGF, on y sera, nous, l'association imaginaire.
Je me permets de faire une petite parenthèse, puisque je parlais tout à l'heure de l'AGF. Je fais des blagues sur l'elfique. Il faut savoir que Tolkien, avant d'être un très très bon auteur, c'était un linguiste de génie, et que l'elfique est une langue réelle qu'on pourrait parler et qui aurait pu exister. C'est une langue extrêmement complexe. Du coup, que quelqu'un arrive à le parler et surtout à le chanter, je trouve ça assez, assez extraordinaire. C'est à peu près du même niveau que les langues dans Star Trek, où on voit dans Big Bang Theory toujours le Klingon, on voit toujours les héros en train de parler Klingon. L'elfique est aussi avancé comme langue qui n'existe pas que le Klingon de Star Trek ou que la langue dans Game of Thrones. Ça, c'est la fin de ma parenthèse. Quant à la GF, donc on va pouvoir retrouver Flavien. Si jamais vous avez pu vous y intéresser, le programme est à peu près entièrement mis sur leur page. Ouais. Ils font encore quelques annonces sur les réseaux sociaux, mais vous verrez que c'est assez blindé quand même. Trois salles de conférences, deux grandes scènes et quatre espaces ludiques à côté où on va pouvoir s'affronter. Il y a un match de Mario Kart, 1 versus 1 versus 1 versus 1, chacun pour sa peau. Il y a des concours de speedrun, vous avez des démonstrations de cheerleading, puisque nous avons une équipe à Angers de cheerleading assez bien cotée. Les conférences qui vont de confectionner son cosplay soi-même à l'origine des super-héros.
Voilà, que tu vas animer. Et puis la deuxième, ce sera ?
Alors, la deuxième que j'anime, c'est la place de la femme dans les sciences et les arts. Puisque l'effet Mathilda, Alexandra Fouillourou en est la spécialiste, c'est dans les arts ou les sciences, la manière dont les réussites des femmes sont souvent phagocytées par les hommes.
Il y aura aussi des expositions. On retrouvera les copains Botéropop, Le Gribouillard, Red Dip, dont on voit de belles affiches en ce moment. Je ne sais pas si vous les avez vues d'Angers, qui mélangent plusieurs films sur la même affiche. C'est assez rigolo. Il y aura Graphite aussi, qu'on retrouvera ensuite au Salon Imaginaire. Et puis, sur le stand Imaginaire, nous aurons comme invité Patrice Véry.
Beaucoup trop de monde.
Donc, Karine a chroniqué les derniers romans en début d'émission. On aura aussi Roxane Dambre, Audrey Plenet, Boris Beuzelin et Tony Emeriot qui participeront à la table ronde. Et puis donc, on aura Ronald Bousseau qu'on a eu au téléphone tout à l'heure, qui passera probablement sur notre stand le dimanche. J'ai oublié quelqu'un ou pas ?
Non, c'est bon, on est bon. Et puis, c'est un moment qui est quand même extrêmement ludique, donc n'hésitez pas à passer. Vous pouvez découvrir, redécouvrir et discuter avec plein de choses. Parmi les personnes qui sont présentes, on n'oublie pas les copains, faut pas déconner, Banquise et Comet, on l'a dit tout à l'heure, les Inception Edition sera présent, La Chemière du Bout des Rêves pour des démonstrations de jeux, de société, et une exposition de costumes, puisque ce sont les spécialistes du Grandeur Nature, jeu de rôle Grandeur Nature de l'Anjou, et pas que. Candoria, qui est un des plus gros moments de Grandeur Nature en monde, se passera en avril, si je me souviens bien.
Le festival de Candoria ?
Ouais.
Non, ce sera en juillet.
Il y a les inters.
Je sais pas ce que c'est des inters. C'est les petits moments.
Ouais. Il y a printemps et automne qui se passent. Puis sans oublier, les auteurs indépendants du Grand Ouest, puisque Aidan Fox sera aussi présent, Lisa Schneider que vous aviez pu rencontrer à Imaginaire sera aussi présent, quelques têtes que vous n'avez pas encore rencontrées mais qui seront aussi présents à Imaginaire, Josepha Juillet, Émilie Chevalet, qui sont des auteurs indépendants que vous pourrez trouver à Langer Geekfest.
Et ça, c'est que pour la littérature.
Bien sûr.
Bon, moi je voulais annoncer aussi que samedi prochain, on retrouve la traditionnelle journée jeu de rôle de l'UCO, organisée par Denis Huneau, donc avec, comme d'habitude, des conférences. Donc, il y aura, alors le thème cette année, c'est Histoire et Uchronie. Donc, il y aura une conférence, deux conférences en fait, une de Denis et une de Claude Bourlès sur ce sujet. Donc ça, ce sera entre 13h30 et 14h30 dans le petit amphithéâtre qu'on trouve à l'entrée du hall Bazin, je crois. Et puis après, de 14h30 à 17h30, partie de jeu de rôle avec 6 tables. Donc tout est gratuit, venez-y, moi-même j'animerai une partie des Risques Tout. Troubleshooters, donc ce jeu un petit peu jeu de rôle, un petit peu Spirou, et là avec un scénario qui se passe dans le Swinging London, donc années 60 à Londres, mais dans un univers où les Beatles n'existent pas.
Et sans transition et sans oubli, d'abord, n'oubliez pas de participer à notre jeu pour récupérer deux passes, deux jours de l'Angers Geek Fest. Et puis, dans deux mois, eh ben, il y a Imaginaire qui sera présent. L'affiche réalisée par Jacques Pimbouin est visible sur les réseaux sociaux et sur notre site. La liste des invités, que ce soit les maisons d'édition ou les auteurs, est a priori finalisée et disponible sur le site. Il y aura forcément des modifications quand même pour n'importe quel événement. Le samedi et le dimanche au Salon Kurnansky, avec des animations, table ronde, la remise du troisième prix à Heyerdahl, où nous annoncerons dans une semaine le lauréat.
Ok.
Le prix sera mis par Philippe Ward, vous pouvez être certain de le retrouver, et quelques maisons d'édition partenaires qui seront aussi présentes. Voilà.
Sébastien, tu as un truc à ajouter?
Et donc en parlant là du festival, il y aura Benoît Patrice, auteur angevin, qu'on avait déjà reçu ici, et qui va sortir un nouveau recueil, Charme Noir. On aura le plaisir de l'accueillir courant avril pour en parler.
Donc peut-être dans notre prochaine émission.
Fin avril plutôt.
Ok. Oui, nouveau recueil de nouvelles qui sort aux éditions de l'Abat-Jour. On l'avait déjà reçu pour son Rotel premier Sciences. Roman, voilà, qui était un roman à portée à clé. Ouais. On recevra aussi Julien Elbrock dans une prochaine émission qui vient de tout juste de sortir un nouveau roman au mouton électrique, Lazaret 44. Un énorme bouquin de science-fiction, donc faut qu'on le temps que nous on se l'enfile quand même avant de recevoir Julien. Et puis la réédition aussi, toujours un peu chez les moutons, mais c'est dans la collection Helios, donc format poche, de ses aventures de son super héros catcheur mexicain. Maintenant c'est El Hierro de Hierofante. Voilà, bon, et ben on va vous laisser en compagnie des voix du Scénarium sur Radio G. Donc n'hésitez pas à venir retrouver les membres d'Imaginaire samedi prochain à l'UCO, 2-3 avril l'Angers Geek Fest, avec des places à gagner sur nos réseaux, et puis sans Imaginaire les 14-15 mai prochains. Salut.
Salut.
Bonne soirée.
www.radio-g.fr.
Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voix du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.